désinformation, manque de protection des mineurs. Est-ce que Facebook ment sur ses bonnes intentions quand il promet de mieux réguler ses contenus? Est-ce que le législateur devrait définitivement mettre le nez dedans, contrôler, amender les algorithmes Facebook, non seulement tombe en panne, mais aussi au centre de nouvelles critiques? Faut-il se désinscrire, se désabonner, s'enfuir? Alors, on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Inde, où le culte de la personnalité autour de Narendra Modi ne faiblit pas. C'est inquiétant, parfois utile aussi, quand une très vaste campagne de vaccination est lancée le jour de son anniversaire. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé la mort du père de la bombe atomique pakistanaise. Des bus impériaux transformés en centre d'accueil à Londres, et la planète Mars dans le désert israélien. 18h50, le monde selon Joe Biden et un président américain qui chute dangereusement dans les sondages. 18h55, c'est le monde d'après de Franck Madvon. Crise économique et de course aux armes. Tiens, le revoilà en Corée du Nord. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Benoît Thiolin.
Bonsoir.
Je vais vous le refaire. Bonsoir Benoît Thiolin.
Bonsoir Fabienne
Sintès. Directeur France de Seabrain, qui est une société d'ingénierie logicielle. Vous êtes l'ancien président du Conseil national du numérique. Les ennuis arrivent souvent en escadrille, hein, comme dirait l'autre. Facebook non seulement a subi, avec WhatsApp et Instagram, puisque c'est la même boîte, hein, une panne gigantesque qui a duré plus de 6 heures. Il y a eu cette une du grand magazine Time avec la photo de Zuckerberg qui est marquée « Delete ». Donc est-ce qu'on efface ou est-ce qu'on n'efface pas? Et puis cette lanceuse d'alerte... Je vais vous poser la question directement, est-ce qu'on débranche ou est-ce qu'on ne débranche pas, Benoît Thiolin? Est-ce qu'on en est là avec Facebook aujourd'hui?
En tout cas, alors c'est difficile de débrancher parce que on est tous très dépendants en fait de ces outils. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui pourront dire, moi c'est pas Facebook, j'y vais plus, etc. Mais si vous les additionnez, Facebook, Instagram, WhatsApp, il est probable quand même que parmi les trois, il y en ait quand même un sur lequel vous ayez une petite forme d'addiction. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. La panne de plusieurs heures a plongé quand même quasiment la moitié de l'humanité. Pas dans le brouillard, mais enfin en tout cas pendant quelques heures. Exactement. Donc on mesure en fait la place de cette plateforme, mais en réalité il y a aussi toutes les autres, en réalité, qui nous prennent plusieurs heures par jour et qui concernent une grande partie de l'humanité. Donc s'en priver est quelque chose de difficile au fond.
Mais est-ce que ça veut dire que désormais, un peu comme une banque, comme les banques, vous vous souvenez de ce terme en 2008 pendant la crise financière, too big to fail?
Absolument. Et d'ailleurs il y a des débats qui sont voisins. Si vous regardez un des enjeux aujourd'hui, on en parlera sur les solutions, hein, qui est le projet de directive portée par Thierry Breton, parle justement de plateforme systémique. Donc c'est exactement les mêmes terminologies qui sont utilisées dans le monde de la finance et de la banque. Et il sait bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire est-ce que le temps n'est pas venu de vraiment les réguler? Parce qu'elles sont un peu régulées, mais elles ne le sont pas vraiment.
Alors on va y venir évidemment. Moi ce que je voudrais comprendre aussi, parce qu'on parle de cette grande panne qui a duré 6 heures, alors nous on s'amuse un peu ici en disant bon, on a fait autre chose pendant 6 heures. Pour d'autres c'est quand même une autre mayonnaise, c'est quand même beaucoup plus important. Tout ça, ça parle de fragilité, mais ça se chiffre aussi un moment, non? Une panne pareille, en sonnant et en trébuchant, ça veut dire quoi?
Bien sûr, parce que vous avez énormément d'entreprises, de personnes qui dépendent pour leurs revenus, pour leurs services, de ces plateformes-là. Et donc, si pendant quelques heures, elles sont en panne, c'est un peu comme si EDF était en panne pendant plusieurs heures. Alors, vous pourriez vous dire, bah c'est sympa, on a fait autre chose, on est allé se promener, mais ça va aussi poser des problèmes pour les hôpitaux, pour les gens qui travaillent, pour ceux qui avaient des tas de choses à faire avec de l'électricité. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le numérique est devenu un service public quasiment aussi important que un service essentiel comme l'eau, l'électricité, l'énergie.
Et comment il peut y avoir une telle fragilité également quand on y songe? Parce qu'à la fin, semble-t-il, c'est une erreur humaine. Enfin, comment c'est possible de mettre là, pour le coup, dans le noir, pour ce qui est de ces trois réseaux sociaux-là, 3,5 milliards de personnes sur une erreur humaine? On se dit que ça sent le...
Oui, vous avez raison, mais là, ça pose aussi la question au fond de la taille. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà eu des services, des entreprises qui étaient capables de faire travailler comme ça, ou en tout cas de donner un service à 3 milliards de personnes? En fait, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité qu'une organisation, a fortiori économique, hein, parce que les armées, à la limite, étaient jusque-là les organisations humaines qui étaient les plus importantes, mais très hiérarchiques, très organisées. Là, on est sur un objet qui est quand même très différent et qui dépasse les bornes de ce qu'on savait faire jusque-là.
Alors, quand ça veut pas, ça veut pas, la discussion autour de Facebook a vite tourné à autre chose avec Frances Haugen. C'est arrivé au même moment d'ailleurs, la panne et aussi son audition devant les sénateurs américains, qui après avoir travaillé 2 ans chez Facebook, donc part d'une certaine façon avec les algorithmes sous le bras. Elle dit Facebook est dans une spirale dont ils ne savent plus, dont ils n'arrivent plus à sortir aujourd'hui.
Et oui, parce que au fond, ce qu'elle pointe, c'est deux choses. Hein. D'ailleurs, c'est cette lanceuse d'alerte sur ce qu'elle révèle, de ce qu'on savait un peu déjà, hein, mais sur lequel elle fournit encore plus d'informations. Elle part avec les algorithmes, comme vous le disiez. À mon avis, ça dit deux choses. La première, c'est le poids des algorithmes dans la manière dont on va être abordé par ces plateformes lorsque vous connectez à un compte Instagram, Facebook ou autre. D'ailleurs, c'est aussi valable sur Twitter ou autre. Il y a tellement d'informations, y compris sur ce que vos amis postent, que vous ne pouvez pas matériellement vous-même faire la sélection. Donc en fait, tout ce que vous croyez naturel n'est pas naturel. Il est en réalité poussé par des algorithmes qui vont deviner à la fois ce qui pourrait vous intéresser, mais aussi ce qui va vous faire y rester le plus longtemps possible. Donc c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui quasiment pas, si vous voulez, de fonction naturelle dans une plateforme. Ce sont les algorithmes qui vont détecter ce que vous voulez et qui vont vous servir, en tout cas ce qui va provoquer une grande soif de consommation et le fait que vous y restiez le plus longtemps possible. Et le deuxième problème que ça pose, évidemment, et il est lié, c'est celui du modèle d'affaires. C'est-à-dire, comme on est sur quasiment, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, des modèles d'affaires qui sont essentiellement fondés sur la publicité, donc votre temps de cerveau disponible, comme on disait dans les années 80 ou 90 en France, donc le fait que on puisse détecter que si on vous montre telle information, vous allez y retourner plus souvent et vous allez y rester plus longtemps, eh bien, même si cette information, elle est fausse, même si c'est une information qui va, en fait, vous provoquer des troubles psychologiques ou qui va être des informations complètement délirantes sur les vaccins, sur la Terre qui est plate, ou qui vont vous renvoyer une mauvaise image, vous êtes une adolescente un peu fragile, eh bien, d'une certaine manière, Facebook va se dire, tant pis, parce que moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent et de vous faire revenir le plus possible.
Parce que ce qu'elle dit, ce que Mark Zuckerberg avait plus ou moins nié, on se souvient qu'après 2016, quand la première grande salve, en fait, c'était 2016, après l'élection de Donald Trump, il avait dit, c'est vrai qu'on a peut-être manqué de vigilance. Mais ce qu'elle dit là, et ce qui a l'air assez clair, c'est que, en fait, ils savent très bien enlever les contenus toxiques, ils savent très bien enlever les fake news, sauf qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est ça l'idée, en fait.
Alors, ils savent pas très bien les enlever de manière précise, individuelle, hein, c'est-à-dire telle info, etc. Par contre, ils savent quels sont les algorithmes qui vont pousser plutôt des informations de cet ordre ou de tel autre. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils sont un peu apprentis sorciers. C'est-à-dire que oui, il y a eu une prise de conscience que Trump, clairement, les algorithmes et les fake news qui étaient diffusés, et puis je dirais la violence, le ton, qui fait que d'ailleurs nous-mêmes, quand on regarde une vidéo et qu'on voit tout d'un coup quelque chose qui nous paraît très choquant, on va être attiré par ça. Bien, les algorithmes, ils vont détecter ça et ils vont nous en balancer encore plus. Donc, au lendemain de l'élection de Trump, il y a eu une prise de conscience à la Silicon Valley. Donc, ils ont un peu changé les algorithmes. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui disent que, en changeant des algorithmes qui montaient davantage des informations de votre communauté et beaucoup moins des informations générales, on dit que ça a d'ailleurs contribué à pousser les gilets jaunes en France. Donc, vous voyez qu'en fait, on est sur quelque chose qui est complètement instable. On joue aux apprentis sorciers. Un jour, on modifie l'algorithme, ça fait pousser Trump. Alors, je dis pas que Trump a été élu à cause de ça, hein, bien sûr, mais ça peut contribuer. Un autre jour, on va favoriser plutôt une information très horizontale. Ça a d'autres conséquences. En fait, il est temps, en réalité, qu'on se rende compte que ces algorithmes gouvernent une partie de nos vies, ont des conséquences politiques énormes et économiques, bien sûr. Et donc, c'est à nous démocratiquement de choisir comment on les gère.
Mais alors justement, Benoît Thulin, un algorithme, ça se programme. Est-ce qu'il peut y avoir un algorithme vertueux? Est-ce qu'on peut le rendre vertueux réellement, en fait?
On peut lui mettre un cadre. On peut dire que on peut en effet décider que tel algorithme va supprimer tel type d'information, etc. L'autre jour, Zuckerberg, il a un peu avoué, il a dit, vous savez, on avait déjà modifié, c'est pas vrai, on a modifié, d'ailleurs, tout d'un coup, on a perdu 50 millions d'heures par jour. Bon, et on sentait un peu sa difficulté, c'est-à-dire, vous voulez qu'on aille encore un peu plus loin? Donc en fait, le problème, et c'est là où elle a d'une certaine manière raison, la lanceuse d'alerte, c'est-à-dire que la chose viciée, c'est encore une fois le lien entre les algorithmes, qu'on peut encadrer, et pour l'instant, c'est juste le bon vouloir des plateformes, qui fait qu'ils vont faire telle ou telle chose. Et la deuxième chose, c'est l'audience. Voilà. Et il faut casser cette espèce de d'articulation.
Mais alors, vous dites, on pourrait encadrer. Mais c'est qui on, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que chaque pays soit un on différent? Donc, on aurait tous un Facebook très différent, mais ça peut devenir très dangereux. Regardez, en Chine, il n'y a pas de Facebook pour les raisons que l'on sait. Donc, si on se met à arranger aussi les algorithmes, on peut aussi arriver à un certain nombre d'excès qui peuvent être extrêmement importants. Donc, c'est qui le on, en fait? Qui on doit faire rentrer à l'intérieur de ces entreprises-là pour avoir cette espèce de regard extérieur et que ça se passe mieux?
Vous avez entièrement raison. Le on est difficile à définir. Ce qui est sûr, c'est que là, on touche à une contradiction, en fait. C'est-à-dire que nous, on vote dans un État démocratique, on a de la chance, qui s'appelle la France, alors qu'il est dans un ensemble un peu plus grand, qui s'appelle l'Union Européenne, qui est déjà un peu différent. Bon. Et oui, en effet, il y a un décalage entre le cadre normatif dans lequel on vit et qui est démocratique chez nous, et puis la plateforme qui, elle, est plutôt américaine. Mais il va falloir qu'on sorte de cette contradiction, parce que sinon on va constamment en réalité perdre le pouvoir, notre influence sur des plateformes qui en réalité régentent de plus en plus notre vie sociale, notre vie économique, mais aussi notre vie sentimentale. Vous savez qu'un jeune sur deux va sur une plateforme de dating en se mettant en relation en couple. Donc on voit bien que tout... et qui est derrière tout ça, des algorithmes. Est-ce qu'on les laisse juste de faire ce qu'ils veulent uniquement avec le souci qui est légitime pour une entreprise de gagner de l'argent, ou est-ce qu'on dit bah non, on va y mettre des garde-fous de la même manière que un gamin peut pas aller acheter de l'alcool n'importe comment. Un producteur d'alcool va respecter un cahier des charges. On va vérifier. Un supermarché n'a pas le droit de vendre uniquement ses propres produits et de les mettre en avant et de cacher les autres produits qu'il serait censé vendre. Voilà. Dans toutes ces situations que je vous ai décrites, vous avez de la régulation et vous avez des pouvoirs publics qui viennent là pour la contrôler. Ça n'existe quasiment pas aujourd'hui dans le champ des plateformes. Alors, et c'est un sujet.
Il y a quand même des choses qu'on a réussi à faire. Quand on arrive à demander à une plateforme de donner les identités des anonymes lorsque ce sont des haters, par exemple, donc des gens qui diffusent de la haine sur les réseaux sociaux. Quand, c'est pareil sur Twitter d'ailleurs, il paraît d'ailleurs que Facebook là-dessus est finalement plus transparent que Twitter. Alors du coup, on se demande qui est le méchant là-dedans.
Oui, bien sûr, mais vous voyez bien que tout ça se fait en fait par bonne volonté. Alors qu'en réalité, il devrait y avoir un cadre légal, beaucoup plus strict, plus global aussi, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne. Alors que là, on voit bien, c'est de la, la coopération bilatérale, un service de police qui a un problème. Ouais. Mais vous voyez, il y a un moment donné, comment on rend la justice sur ces plateformes? C'est sûr que ça ne peut pas être le décalque de la justice physique, traditionnelle que l'on connaît. Mais en même temps, juste dire à Zuckerberg, vous avez le droit de faire votre cour suprême dans votre coin et de décider si Fabienne Synthèse, son contenu va être censuré ou pas, on sent bien qu'on est mal à l'aise et qu'il faut que ce soit des règles plus explicites, et encore une fois, parce qu'on est en démocratie, démocratiquement choisie.
Et alors vous l'avez nommé Zuckerberg, et effectivement ça fait partie aussi des choses qu'elle dit, cette lanceuse d'alerte Frances Haugen, elle dit il est tout seul, il est encore 60% des parts. Est-ce que au fond on se dit faut-il brûler Facebook? Peut-être que en fait c'est plutôt Zuckerberg en fait qu'il faut diminuer à l'intérieur de sa propre boîte.
Peut-être. En même temps, j'aurais tendance à vous dire, je crois pas. Je crois que bon, on se focalise beaucoup sur Facebook. C'est vrai que Facebook pose énormément de problèmes. Ensuite, la plupart de ces plateformes en posent. Et finalement, il y en a quelques-unes sur lesquelles on s'en pose moins de questions. Pourquoi? Je pense à Netflix, par exemple. Mm-hmm. On se pose d'autres questions sur Netflix. Mais Netflix, il y a pas de publicité. Mm-hmm. Netflix, évidemment, a envie que vous reveniez. Mais ça reste quelque chose d'un peu différent.
Donc, faudrait faire payer Facebook alors.
Mais je pense qu'un des sujets, c'est effectivement de forcer les plateformes à probablement diversifier leur modèle d'affaires, que ce soit pas uniquement sur la publicité. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Un peu pour une partie d'entre elles. Hein. Vous avez des abonnements sur Amazon, vous avez des abonnements sur Google, si vous faites Gmail, etc. Et par ailleurs, c'est toutes des plateformes
qui sont
diversifiées.
Aucun réseau social n'est payant. Donc ce serait la révolution si l'un d'eux se mettait à être payant. Tous les réseaux sociaux sont gratis.
C'est vrai.
C'est pas la première fois que c'est difficile pour Mark Zuckerberg. Il y a eu d'ailleurs, c'est pas la première fois non plus qu'il y a un ex-salarié de Facebook qui vient et qui dit arrêtez tout, je me souviens plus du nom de celui qui a décidé lui de fermer sa page intégralement et de faire tout à fait autre chose. Est-ce qu'à un moment quand même ça le touche, parce qu'on a quand même le sentiment qu'ils disent oui non mais très bien, on va s'arranger, puis on se rend bien compte qu'ils s'arrangent pas.
Oui, c'est vrai.
Donc est-ce que tout ça ça les touche vraiment, ou est-ce que ça aussi le fait de dire pardon, on va faire attention, c'est du cinéma totalement?
C'est vrai qu'il y a une certaine arrogance de la part de Mark Zuckerberg depuis longtemps, hein, une certaine dureté en fait. Vous vous souvenez de ses déclarations fracassantes quand il a dit de toute façon il y a plus de vie privée, il y a plus d'intimité avec le web, etc. Bon, il est un peu caractéristique de ça, et il le paye aujourd'hui. Il paye aussi aujourd'hui le fait que si je vous demande quel est le patron de Twitter ou de Google, vous serez quasiment incapable de me le dire, alors que de Facebook, c'est une évidence, c'est la personnalité la plus centrale, la plus connue au fond de la Silicon Valley. Et ça, il le paye. Et il paye aussi le fait que du coup, concentrant un peu l'attraction médiatique, il concentre aussi les sorties les pires sur ce qui s'y passe. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai sujet pour eux qui n'est pas simple et qui est probablement aussi, encore une fois, le fait qu'ils ont un modèle d'affaires très simple et ils ont un service au fond qu'ils ont peu diversifié. Google, c'est autant Google Maps que tel type de service. Facebook, ça reste Facebook. Mmh. Et au fond, d'ailleurs, les services qu'ils y ont ajoutés sont aussi très autonomes. WhatsApp ou Instagram sont des entités en soi extrêmement déterminées et connues. Et effectivement, là-dedans, le pouvoir qu'il a est gigantesque, puisqu'il reste, et c'est un cas un peu d'école, majoritaire et vraiment décisionnaire. Et par ailleurs, c'est un geek. Hein, c'est-à-dire que c'est un ingénieur et sûrement très brillant. Donc quand on dit qu'il met les mains dans le code de ses algorithmes,
c'est ça. On dit que c'est même lui les algorithmes, c'est lui.
En effet, le croire ou qu'en tout cas, quand il y a une décision qui est prise, il est clair qu'il en mesure parfaitement les conséquences.
Nous, on a bien vu en Europe qu'il y avait eu effectivement un certain nombre de tentatives qui venaient notamment de Thierry Breton. Il y a des choses qui ont réussi d'ailleurs. Est-ce que il y a cette même envie, ce même désir de j'allais dire de réguler.
Oui,
c'est le mot d'ailleurs,
oui,
réguler, qui vient des États-Unis. Est-ce que vraiment il y a ce même désir et ils n'ont pas les outils, ou est-ce qu'on est un peu tout seul là-dedans?
Alors non,
je pense que
cette capacité à réguler est même supérieure en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Mm-hmm. La prise de conscience est arrivée plus tôt et ça fait longtemps quand même qu'on parle d'ouvrir ces boîtes noires que sont les algorithmes. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce terme qui peut paraître un peu abstrait au fond,
mais
c'est
vous
vraiment
avez raison,
les
la
règles
clé là,
qui
ouais.
font qu'on va vous pousser une information, mm-hmm. un service, une personne plutôt ou un produit plutôt qu'un autre. Eh bien, ces règles là aujourd'hui, elles sont l'angle mort. Du service public de notre débat démocratique. Et donc Thierry Breton dans sa directive prévoit, moi j'avais défendu à l'époque la création d'une agence de la loyauté des plateformes, c'est-à-dire une agence qui va avoir des ingénieurs qui vont tester les algorithmes, qui vont pouvoir dire bah non, là vous poussez tel produit plutôt qu'un autre et comme par hasard c'est un produit qui vous appartient. Avez-vous déjà essayé d'acheter un produit Google chez Amazon? Vous verrez, vous allez tomber assez vite sur les produits Amazon. Bon, et ben ça c'est grossi, on arrive à le remarquer, mais pour tel autre type de biais algorithmique, vous êtes incapable de le connaître. C'est, à mon avis, à l'Union européenne d'ouvrir la voie, comme elle avait su le faire d'ailleurs sur le RGPD. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs payés par l'Union européenne, dont ce soit le métier d'inspecter, de mesurer, de contrôler, de faire de la rétro-ingénierie et de savoir comment gouvernent ces algorithmes nos vies économiques, nos vies sociales, nos vies politiques, pour pouvoir dire, là vous avez commis une erreur, là on va recadrer et on va changer la manière dont vous organisez votre algorithme. C'est un enjeu démocratique absolument essentiel et dont on parle pas assez, je pense.
Ben, en tout cas, on en parle en Europe, on verra bien si effectivement, encore une fois, l'exemple européen arrive à infléchir un peu les États-Unis ou si on se retrouvera d'ici 2 ou 3 mois sur le prochain scandale de Facebook, Benoît Thiolin. Vous avez toujours une page ou pas, vous? Vous avez
oui,
une page
toujours,
Facebook
bien sûr, ouais. Mais j'y vais moins. J'y vais
voilà,
moins.
Pareil. Voilà. Toujours une page, mais on y va moins.
Mais WhatsApp, par contre,
ouais, aussi.
On y va beaucoup.
Beaucoup,
voilà. C'est leur grande force, ils ont su évoluer.
Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage dans un journal.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde en Inde, où le culte de la personnalité autour de Narendra Modi est mis au service de la vaccination de masse. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Legénie.
Le Pakistan enterrait hier l'un de ses héros, le père de la bombe atomique nationale.
Le monde selon Joe Biden et l'Amérique selon Joe Biden. Sébastien Power, bonsoir.
Bonsoir. Presque un Américain sur deux n'aime plus trop son président. Ça fait 9 mois qu'il est à la Maison-Blanche.
Et à tout de suite, le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir. Pardon,
bonsoir
Franck.
Fabienne. La Corée du Nord traverse une sérieuse crise économique, mais n'a en réalité qu'une préoccupation, la course aux armements.
À tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il fait un petit détour avec Cannibal, SL Amor, le laisser sur France Inter.
estoy mirando cómo ir a verte. Hay un solo camino, es el amor, amor, amor.
Le bruit du monde ce soir est en Inde, où le premier ministre indien Narendra Modi est vénéré de manière exceptionnelle par son parti et par l'appareil gouvernemental. À certains égards, vous me direz, ça fait peur, et vous avez raison, sauf quand cette administration est mise à profit pour soigner la population. Cette admiration est mise à profit pour soigner la population. Ainsi, par exemple, le parti de Modi, le BJP, a organisé un record de vaccination contre le Covid-19 pour célébrer l'anniversaire de Modi. Et le reste, c'est Sébastien Farcy qui raconte.
Nous sommes le 17 septembre dernier. C'est le jour de l'anniversaire de Narendra Modi et son parti du BJP mobilise ses troupes ainsi que l'appareil de l'État pour offrir un cadeau spécial au Premier ministre, un record de vaccination contre le Covid-19. Selon le ministre de la Santé, il faut remercier M. Modi d'avoir offert des vaccins gratuits à la nation. Et l'effort paye. Près de 23 millions de personnes sont vaccinées ce jour-là, soit 4 fois plus que les jours précédents, ce qui constitue un record national. RP Singh est porte-parole du BJP.
Depuis des mois, le BJP a formé des équipes dans tous les villages du pays. Elles ont des listes d'habitants et s'assurent que les personnes vont se faire vacciner. Ce jour-là, nos travailleurs ont collaboré avec les autres partis pour montrer à quelle vitesse l'Inde pouvait vacciner sa population. Le but était de prouver nos capacités de mobilisation.
Les vaccinations ont toutefois surtout explosé dans les États dirigés par le BJP. En une journée, elles ont par exemple été multipliées par 38 au Karnataka et par 10 au Gujarat, des bastions de ce parti. Et la manière d'y arriver serait douteuse, analyse Rijo John, économiste de la santé et professeur adjoint à l'université Rajagiri de Cochin.
Dans les États du BJP, la vaccination a fortement baissé les 3-4 jours précédents pour exploser ce jour-là et retomber ensuite au même niveau qu'avant. Il est donc possible que les autorités ont retardé la vaccination des personnes pour arriver à ce record. Et ceci est une mauvaise chose en termes de santé publique.
L'opération de communication, elle, est en tout cas réussie. Dès le lendemain, les journaux titrent que l'Inde a battu ce record pour célébrer l'anniversaire du Premier ministre. Une marque supplémentaire du culte grandissant de Narendra Modi en Inde, comme l'explique Nilanjan Mukhopadhyay, écrivain et spécialiste du nationalisme hindou.
Les dirigeants du BJP parlent de M. Modi comme s'il était un surhomme venu d'une autre planète, qui aurait offert sa première campagne de vaccination alors que le pays a une longue tradition dans le domaine. Et l'image de M. Modi est partout, dans les journaux, sur les énormes affiches, dans la rue, sur l'autoroute. Vous ne pouvez pas vivre une journée en Inde sans voir sa photo.
Chaque annonce ou chaque affiche gouvernementale porte en effet le portrait de Narendra Modi. Et si d'autres élus du BJP sont présents, l'image du Premier ministre est généralement deux fois plus grande que celle des autres. Son visage est également imprimé sur les millions de certificats de vaccination distribués tous les jours aux Indiens. Nilanjan Mukhopadhyay.
Ces dernières années, le BJP et M. Modi ont effacé les lignes de démarcation qui existe entre le dirigeant, le gouvernement, l'État et la nation. Ces concepts sont censés devenir synonymes. En gros, Modi est l'Inde et l'Inde est Modi.
Jamais un Premier ministre n'a fait l'objet d'un tel culte depuis Indira Gandhi. C'était dans les années 70 et la fille de Nehru, très autoritaire, a fini son mandat en déclarant l'état d'urgence et en suspendant les libertés publiques pendant près de 2 ans.
Sébastien Farcy avec nous depuis New Delhi. Merci beaucoup, Sébastien. En voilà un autre, tiens, de Sébastien. Sébastien Legénie qui va chercher l'info internationale sous les radars. Et ce bruit, ce fracas, Sébastien, ce sont les rues d'Islamabad, au Pakistan, hier, lors des funérailles d'un véritable héros national.
Les funérailles d'Abdul Kader Khan, le père de la bombe atomique pakistanaise, dont le cercueil, on l'entend, était suivi hier par des milliers, des dizaines de milliers d'admirateurs dans les rues de la capitale. Abdul Kader Khan est donc mort hier à 85 ans après avoir été testé positif au Covid. Ce scientifique nucléaire a gagné ses galons d'icône nationale en 1998. Lorsque la République islamique du Pakistan est officiellement devenue une puissance nucléaire militaire juste après l'Inde, l'éternel rival. L'histoire raconte que c'est notamment en volant des plans secrets aux Pays-Bas dans les années 70 que le jeune docteur Khan a mis au point la bombe, un personnage digne d'un roman d'espionnage à qui tout le Pakistan a rendu hommage hier. Aujourd'hui, toute la nation est attristée, dit ce Pakistanais. Khan était fidèle au Pakistan, il a fait du Pakistan une puissance nucléaire, mais c'est regrettable la façon dont il a été traité à la fin par le gouvernement. C'est un patriote qui aurait dû être honoré, respecté, mais lui n'a pas obtenu ce respect. Et la nation est triste aussi à cause de cela. Le docteur Khan, en effet, a aussi connu l'opprobre après la gloire. Dans les années 2000, le monde découvre avec stupeur que le docteur Khan alimentait en fait depuis des années les pires dictatures du monde en informations confidentielles, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Corée du Nord et la Libye, faisant proliférer les armes nucléaires plus qu'aucun autre auparavant, et le tout pour de l'argent. Abdul Kader Khan finira par être placé en résidence surveillée pendant 5 ans à Islamabad, puis pardonné et protégé ensuite par le pouvoir pakistanais jusqu'à sa mort, remportant avec lui des secrets d'État auxquels les renseignements du monde entier auraient bien aimé avoir accès.
Direction maintenant les rues de Londres, où circule un bus d'un tout nouveau genre.
Vu de l'extérieur, ce sont toujours des bus impériales avec un étage, mais à l'intérieur, plus rien à voir. Il s'agit de bus multifonctions pour fournir des services vitaux aux sans-abri. Le concept a été imaginé par l'ONG Change Please, autrement dit un centre d'accueil mobile pour des gens à la rue depuis des mois. Dans ce bus, un cabinet de médecin, un fauteuil de dentiste, la possibilité de prendre une douche et d'avoir des conseils pour retrouver confiance, voire même un travail. On fournit des services de base, dit le fondateur de Change Please, comme se faire couper les cheveux, des vêtements de rechange, et on donne une photo avant et après, un petit Polaroid. Ce que nous voulons, c'est que les gens voient à quoi ils ressemblent quand ils partent et qu'ils essaient de se souvenir de la personne qu'ils étaient, ce qui commence à leur redonner confiance. 2 bus donc vont commencer à arpenter les rues de la capitale anglaise. Objectif, voir 6 personnes par jour dans les 2 années à venir, 3000 SDF au total. C'est l'une des initiatives recensées parmi des milliers d'autres. C'était hier la journée mondiale des sans-abri.
Et puis pour terminer, Sébastien, partons pour la planète Mars version israélienne.
L'État hébreu a désormais lui aussi sa base martienne pour tenter de reproduire la vie sur la planète rouge. Un polygone au milieu d'un grand cratère dans le désert caillouteux du Negev, des astronautes en scaphandre argenté, le tout baigné d'une lumière orangée. On s'y croirait presque, Fabienne, sauf que dans le Negev, il fait parfois plus de 45 degrés et sur Mars, on est plutôt sur du moins 60. Mais c'est visiblement pas le problème. Il s'agit surtout ici de tester des outils, de réunir une équipe de chercheurs capables de vivre en vase clos pendant un mois, le tout à l'initiative d'une fondation privée appelée le Forum Spatial Autrichien. Voilà, c'est le patron de cette fondation privée que l'on entend. Des chercheurs, dit-il, de 25 nations sont réunis ici pour simuler donc la première mission humaine sur Mars. Un équipage soigneusement sélectionné de 6 astronautes de divers pays qui imitent les premiers pas de notre société sur la planète rouge. Voilà Voilà, ça fait de la com à peu de frais, ça fait avancer la science un peu. La Fondation a déjà écumé 12 autres pays dans le monde pour simuler la vie sur Mars. Le désert d'Oman, les grottes glacées de l'Autriche, le Maroc, l'Espagne, l'Australie, les États-Unis. Si vous n'avez pas encore votre base martienne, dépêchez-vous de vous inscrire.
Eh ben, on va le faire. Cela dit, on en connaît quelques-uns, nous, des martiens tombés de leur soucoupe. Un peu ici, des fois, on en croise. Allez, ouais. Sébastien, à demain, vous partez avec Johnny Cash et sa Redemption Song. C'est sur France Inter.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Johnny Cash et sa Redemption Song sur France Inter. Puisque nous sommes aux États-Unis, restons-y, c'est lundi.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
L'Amérique de Joe Biden et de Sébastien Paour à Washington. Un rendez-vous qu'on pourrait presque modifier, Sébastien. On va l'appeler l'Amérique de moins en moins Biden.
Oui, presque un Américain sur deux a une opinion défavorable de son président. 49% des sondés d'après plusieurs enquêtes récentes. On est presque 9 mois après son arrivée à la Maison-Blanche et la lune de miel est terminée, disent les observateurs. Il faut du concret maintenant, il faut tenir les promesses. Voilà ce qu'on lit un peu partout. Prendre des mesures pour protéger les Noirs des violences de la police, faire voter les plans de réformes, réformes sociales et d'infrastructures qui sont notamment retardées par des querelles internes aux démocrates, et puis sortir aussi de l'impasse sur le plafond de la dette. Pour l'instant, vous le savez, la question est réglée jusqu'au 3 décembre. Ça a été laborieux ces derniers jours au Capitole, mais le problème va se reposer après cette date, évidemment. Alors certains proposent plus ou moins sérieusement sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé d'émettre une pièce à 1000 milliards de dollars pour régler le problème. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a écarté l'idée hier sur ABC.
Je ne soutiendrai pas une pièce de 1 000 milliards de dollars. Je pense que c'est un gadget et cela met en péril l'indépendance de la réserve fédérale. C'est une responsabilité bipartisane partagée. Elle a été soulevée près de 70 fois depuis 1965, presque toujours sur une base bipartisane. Et je pense que cela devrait être une responsabilité partagée et non la responsabilité d'un seul parti.
Voilà, pas question donc d'imprimer de l'argent pour couvrir le déficit.
Eh oui, trop facile. Alors, tous ces débats et ces lenteurs, Trump, le revoilà, en fait ses choux gras.
Ah oui, il n'est plus sur Twitter, vous le regrettez, depuis l'attaque du Capitole en janvier, mais il tient régulièrement des meetings, le saviez-vous, et il dézingue tout ce que fait ou que dit Trump. Il dit par exemple que son successeur fait passer le pays d'America First, on se souvient du slogan.
Tout ce que dit Biden,
America Last.
Sébastien, pardon, tout ce que dit Joe comment, Biden. Mais non, ce que vous avez Qu'est-ce dit, il dézingue tout ce que dit Trump, donc en même temps, il ne peut pas s'auto-dézinguer.
il dézingue ce que dit son successeur et il continue, Trump, de ne pas concéder sa défaite. Écoutez, c'était samedi soir devant ses supporters à Des Moines dans l'Iowa.
Hillary conceded. I never conceded. Never. Never conceded. No reason to concede.
Hillary a concédé la défaite, Hillary Clinton bien sûr, pas moi, aucune raison de le faire, dit Trump. Il n'est pas encore officiellement candidat pour 2024, mais il n'a toujours pas perdu en 2020.
Allez, rien à voir des nouvelles de Rikers Island.
La célèbre île prison de New York que DSK a connue en mai 2011, 8 bâtiments sur l'East River, on est entre le Bronx et le Queens, 4800 détenus, 8000 surveillants, mais de gros problèmes d'absentéisme chez les matons à cause des mauvaises conditions de travail dans ce complexe qui est considéré comme vétuste depuis les premiers rapports sur le sujet qui remontent aux années 70. Les tuyaux ou les radiateurs par exemple ne tiennent plus, ils sont transformés en armes blanches, des cellules ne ferment plus non plus, les gardiens ne sont pas assez nombreux, ça donne des scènes effrayantes. Racontée par le New York Times ce matin qui a lu les derniers comptes rendus de l'administration pénitentiaire. Un détenu par exemple qui monte dans un bus parce que personne ne le surveille, les clés sont sur le contact, il démarre, il fonce tout droit et il commence à faire trembler un mur d'enceinte en briques avant finalement d'être interpellé. Les prisonniers fument tabac et marijuana un peu partout dans le complexe, ils décrochent le téléphone à la place des surveillants, ils prennent leurs clés, libèrent d'autres détenus et puis ils ont comme pris le contrôle de certaines parties de la prison, tellement les gardiens sont débordés. Tout cela dans une violence inouïe, 12 morts depuis le début de l'année. Et les choses ne devraient pas s'arranger avant la prise de fonction du nouveau maire, ce sera en janvier. L'actuel maire, Bill de Blasio, est arrivé lui à la conclusion qu'il faut fermer Rikers Island.
Sébastien Paour, en direct de Washington, avec nous à lundi prochain, Sébastien.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, la Corée du Nord a célébré hier le 76e anniversaire du Parti des Travailleurs au pouvoir. Depuis septembre, le pays envoie des signaux contradictoires. Il multiplie les provocations militaires tout en lançant des appels au dialogue. En fait, la Corée du Nord ne change rien à sa stratégie. Sa priorité reste la course aux armements. Le retour à la table des négociations n'est absolument pas une priorité. C'est votre monde d'après, Franck.
Hier, à Pyongyang, Fabienne, les images officielles n'ont étonné personne. Pour l'anniversaire du Parti des Travailleurs, comme pour toutes les fêtes nationales, les Nord-Coréens ont revêtu leurs plus beaux habits pour déposer des fleurs au pied des statues géantes des anciens dirigeants du pays, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le numéro 1 actuel, Kim Jong-un, a profité de l'occasion pour appeler les hauts responsables du pays à améliorer la qualité de vie des habitants dans cette période économique sombre. Difficile en effet de masquer la crise qui frappe la Corée du Nord. Pour faire face à la pandémie de Covid, les frontières sont fermées depuis début 2020 et Pyongyang souffre toujours des sanctions imposées par l'ONU en raison de son programme nucléaire. Le dernier État stalinien est le plus sanctionné au monde. Le pays a beaucoup de mal à s'approvisionner, des habitants ont faim, même si la situation n'est pas aussi dramatique que la famine des années 90. Mais pour les dirigeants, seul compte la course à l'armement qui se poursuit. Un rapport de l'ONU l'a encore montré la semaine dernière. La Corée du Nord continue à développer son programme nucléaire et ces missiles, trois types de missiles ont été testés en un mois, longue portée, anti-aérien et hypersoniques, des engins qui volent à basse altitude et que l'on peut manœuvrer. Par ailleurs, d'après ce rapport, Pyongyang contourne toujours les sanctions et importe par exemple des voitures de luxe destinées aux caciques du régime.
Et pourtant, Franck, la Corée du Nord a aussi montré quelques signes de bonne volonté, non ?
Alors d'abord, oui Fabienne, le Nord et le Sud ont rétabli leurs canaux de communication la semaine dernière. Pour la première fois depuis août, des responsables des deux Corées ont discuté au téléphone. En juillet, les deux pays avaient annoncé un rétablissement des communications à la frontière. Une surprise, l'an dernier, la Corée du Nord avait coupé tous les échanges avec le Sud pour protester contre l'envoi sur son territoire de tracts de propagande anti-Pyongyang. Les dirigeants du Nord se montrent même ouverts à un sommet intercoréen pour mettre fin à la guerre entre les Corées, toujours officiellement en conflit, vous le savez, puisqu'aucun traité de paix n'a été signé lors de la partition en 1953. Au Sud, le président Moon Jae-in est emballé par l'idée, il doit quitter son poste en mai prochain et rêve d'un rapprochement avec le Nord, le combat de son mandat, lui qui a rencontré plusieurs fois Kim Jong-un. Mais la Corée du Nord n'est pas prête à tout, elle a aussi rejeté une offre de dialogue des États-Unis qui poursuivent une politique hostile selon Pyongyang.
C'est difficile de s'y retrouver dans cette stratégie nord-coréenne.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le New York Times parle de la stratégie du bain chaud et froid. Il s'agit en résumé d'entrouvrir la porte du dialogue, de ne plus franchir la ligne rouge, pas d'essai nucléaire par exemple, plus d'essai nucléaire, mais aussi de ne jamais parler de dénucléarisation. La Corée du Nord pourrait éventuellement discuter d'une limitation de son arsenal, mais rien de plus. Au fond, rien ne change à Pyongyang. C'est d'ailleurs ce que confirme un transfuge nord-coréen de haut rang passé au Sud qui accorde une interview à la BBC publiée aujourd'hui. Cet ancien colonel a passé 30 ans au sein des services de renseignement nord-coréens. Il a fait défection en 2014 et s'exprime pour la première fois, un témoignage rare. Cet homme décrit le programme de formation des soldats du futur mis en place par la Corée du Nord dès les années 80 pour conduire des cyberattaques dans le monde entier. Il raconte les ventes illégales d'armes et les trafics de drogue orchestrés par le pouvoir pour financer le régime. Il assure enfin que Kim Jong-un n'a aucune intention de faire des concessions. La stratégie que nous avons mise en place continue, dit-il. Vous devez savoir que la Corée du Nord n'a pas changé de 0,01%.
Le monde d'après de Franck Madvon. Merci beaucoup Franck, tous les soirs dans Un jour dans le monde. La suite comme chaque soir, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne quittez pas, on vous parle.